Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir tout le monde, et oui, il est 6h, 6h pile avant minuit. J'espère que vous allez bien, merci d'écouter votre émission d'actu préférée sur Syllab. Il faut que je vous parle du FSER. Le FSER, c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Un sigle très important pour nous, à Syllab, mais aussi pour les plus de 770 autres radios associatives de notre pays. Grâce à ces quatre lettres, nous existons. Nous promouvons les événements locaux, nous mettons en valeur les initiatives et les talents de notre territoire, il y en a plein. Nous proposons des ateliers d'éducation aux médias et à l'information, à la fois à des établissements scolaires, des centres sociaux ou encore à des associations socioculturelles. Nous jouons un rôle clé dans la vie démocratique, culturelle et sociale de l'Ille-et-Vilaine. Nous offrons une plateforme d'expression aux citoyens et citoyennes, garantissant la diversité des opinions. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, notre inquiétude. Le projet de loi de finances du gouvernement prévoit une réduction de 30% de ce fameux FSER, une coupe budgétaire de plus de 10 millions d'euros. À Syllab, nous sommes 4 salariés, 3 volontaires en service civique et une centaine de bénévoles. Ensemble, nous réalisons des missions essentielles à notre époque, à notre démocratie, risquant d'être mises en péril par cette baisse drastique du budget. Si vous souhaitez soutenir votre radio locale, chères auditrices, chers auditeurs, interpellez vos élus, parlez de nous et continuez de nous écouter. On vous en sera éternellement reconnaissant et reconnaissante. Tout de suite, le flash d'Aglaé.
Le Hezbollah est un peu plus diminué. Hier soir, l'armée israélienne a confirmé avoir éliminé Hachem Safieddine début octobre dans une frappe à Beyrouth. Il était considéré comme le plus probable successeur d'Hassan Nasrallah, son cousin, et anciennement à la tête de l'organisation terroriste libanaise. Au même moment, Israël a appelé les habitants de Sour, une grande ville au sud du Liban, à évacuer certains quartiers. L'Agence nationale d'information libanaise a aujourd'hui annoncé qu'une rue de la ville a été touchée par une frappe de drone. La vie politique gabonaise se renouvelle. Le projet d'une nouvelle constitution était très attendu. Son texte a été rendu public par le gouvernement de transition le 21 octobre dans la soirée. Dans cette nouvelle loi fondamentale, plusieurs mesures intouchables. La limite de l'exercice du rôle de président de la République à 2 mandats successifs, avec un pouvoir exécutif fort sans premier ministre. Mais aussi le mariage exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Et enfin, la candidature présidentielle uniquement destinée aux Gabonais et Gabonaises. Son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu jeudi. Il doit maintenant être adopté ou non par les citoyens et citoyennes par référendum le 16 novembre. Et la malbouffe, c'est définitivement à éviter. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies américains ont annoncé hier que 49 personnes ont été touchées par la bactérie Escherichia coli. Parmi elles, 10 ont été hospitalisées et une personne âgée est décédée. Elles sont toutes tombées malades après avoir mangé le Quarter Pounder, un burger signé McDonald's. Pour rappel, la bactérie dont il est question provoque de douloureuses crampes d'estomac, des vomissements et des diarrhées. Une enquête a été ouverte afin de déterminer quelles sont les causes exactes des intoxications. En attendant, l'action de McDo a chuté de 8% après la fermeture de la bourse à New York. Lundi dernier, un groupuscule d'extrême droite a pris pour cible une radio associative de Besançon. Héloïse, que s'est-il passé ?
Il est un peu moins de 20h ce lundi 21 octobre. Les caméras de surveillance de la radio BIP, BIP c'est pour Byzantine Indépendante et Populaire, capturent une tentative d'intrusion. Sur les images, on voit un groupe d'hommes masqués et portant des gants coquets enfoncer la porte du média indépendant à coups de pied. Le système de sécurité se déclenche aussitôt, provoquant la fuite des assaillants. Arrivée sur place très peu de temps après, Emma Audrey, journaliste de la radio bisontine et déléguée syndicale SNJ-CGT, témoigne dans les pages de Libération. Par hasard et par chance, il n'y avait personne à la rédaction, comme c'est habituellement le cas à 7h. On pense évidemment à ce qui aurait pu se passer si ces individus étaient tombés sur un membre de notre équipe, précise notre consoeur. En ajoutant qu'aujourd'hui, la rédaction s'est barricadée dans ses locaux. Très inquiets, les deux journalistes permanents de la radio affirment que leur sécurité n'est plus assurée. Il faut dire que cette attaque est loin d'être la première subie par la station. En mai 2022, BIP avait été cambriolé. Bilan du larcin, 11 000 euros de matériel dérobé, empêchant momentanément la radio de pouvoir émettre. En mai dernier, des tags racistes avaient été inscrits sur la façade de la radio. Fuck antifasciste, justice pour Matisse, en référence à la mort de Matisse, poignardé à Châteauroux fin avril par un jeune de nationalité afghane. Accompagnant la phrase, une croix celtique, symbole malheureusement repris et détourné par les groupes d'extrême droite. À l'origine de ces actes malveillants, selon la rédaction, sa ligne éditoriale, basée sur les droits humains. Dans la préfecture du Doubs, les groupuscules d'extrême droite pullulent et sont de plus en plus virulents. En mai dernier, une vingtaine de néo-nazis avaient même paradé dans les rues de Besançon en multipliant les slogans racistes et les saluts nazis. Nos confrères et consoeurs de Radio Bip ont, de leur côté, déposé plainte.
Oui, et à ces labs, nous adressons évidemment tout notre soutien à nos confrères et consoeurs doubistes. Le rendez-vous annuel des gamers et gameuses est de retour. La 13e édition du salon consacré à la pop culture sous toutes ses formes débute aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, près de 200 000 personnes sont attendues à Paris, porte de Versailles. Au programme, des conférences, des rencontres, de l'e-sport, du cosplay, des mangas, mais aussi du sport. La Paris Games Week se veut être un véritable rassemblement fédérant à la fois tous les acteurs du secteur ainsi que les joueurs et joueuses. Attention, en Ille-et-Vilaine, nous pourrions avoir les pieds dans l'eau. Ces derniers jours, Météo France a placé l'Ille-et-Vilaine en vigilance jaune. La Vilaine et la Sèche sont notamment concernées.
La Sèche qui n'est pas sèche, du coup.
Non. Faites bien attention à vous, le risque de crue est important. La vigilance se poursuit jusqu'à demain minimum.
Ça sentait très bizarre ce matin dans le centre de Rennes, Aglaé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, vous avez peut-être vous-même été surpris ce matin par une forte odeur de brûlé en vous déplaçant dans le centre-ville. Pas d'inquiétude, aucun bâtiment ne s'est enflammé. L'odeur provient en fait d'un bus au gaz. Il a pris feu ce matin vers 6h30 au dépôt d'une compagnie de transport près de Champy. Les pompiers sont rapidement intervenus et l'incendie a été maîtrisé. Cet incendie a causé quelques retards. Et Zachary et Thibaut se sont rendus à la maison de quartier de Villejean pour assister à un thé dansant. Créé il y a un an, cet événement vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées qu'ils appellent les jeunes de plus de 60 ans.
Salut Anna.
Eh bien moi je suis Pauline Molleton, je suis animatrice vie sociale au sein de l'association Rencontre et Culture qui anime et gère la maison de quartier de Villejean. Du coup moi mon champ d'action c'est notamment d'accompagner les projets des habitants et j'interviens plutôt sur du coup des projets qui touchent les publics adultes et avec une attention particulière pour les jeunes de plus de 60 ans.
Nous sommes rendus dans ce thé dansant. Ici ça valse, ça chante, mais surtout on s'amuse. Ces rendez-vous mensuels à la maison de quartier de Villejean sont une opportunité pour retrouver du lien social. Selon les derniers chiffres 2021 du ministère des Solidarités, 2 millions de personnes âgées sont isolées des cercles de sociabilité.
On s'inscrit vraiment dans une démarche de bien vieillir, de lutte contre l'isolement. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, on propose des choses assez simples, comme des thés dansants, qui sont des rendez-vous en fait, où l'idée, c'est que les gens puissent venir, se croiser, se découvrir, faire des rencontres, passer un bon moment. L'idée, c'est de donner envie aussi de sortir de chez soi pour faire du bien à la tête, pour être dans une démarche de sociabilité. Ce qui est assez drôle, c'est que les premiers participants sont les meilleurs ambassadeurs en fait, de cette démarche-là, parce que du coup, ils vont en parler dans leur réseau amical, auprès de leurs voisins.
Mais qu'est-ce que tout cela a apporté au quartier et aux adhérents ? Nous avons posé la question à une des habituées.
Il n'y avait rien sur le quartier pour les personnes qui aimaient danser. Et moi, j'aime cet endroit parce que quand j'étais petite fille, avec les grands-parents et mes parents, j'allais dans les bals souvent. Et ça me rappelle tous ces moments que j'ai passés qui étaient heureux. Et je pense que il faut pas oublier justement dans notre société cette période-là, parce que les gens travaillaient très très dur et ils savaient prendre du bon temps, quoi.
Alors on n'a pas plus de 60 ans, mais on s'est bien amusé.
Un dernier mot à ajouter pour nos auditrices et auditeurs ?
Ben, moi je leur dis venez, venez. C'est quelque chose qui fait du bien. Cette musique là, moi je trouve que c'est extraordinaire.
Merci à Thibaut et Zachary pour ce reportage.
Et oui, Thibaut et Zachary, ils ont vraiment adoré aller danser à grands coups d'accordéon. Je crois qu'ils ont vraiment passé un très très bon moment. Merci Aglaé pour ce flash. Nous avons deux invités en studio ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Tous deux vêtus de noir et de Bordeaux, j'ai face à moi Emmanuel Le Baron, programmateur chargé de la programmation, si je puis dire, au Festival Regard, ainsi que Nadine Patrick, qui, elle, est coordinatrice du festival. Bonsoir.
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 Le Festival Regard, c'est un festival de cinéma de culture queer, mais pas que de cinéma, d'aussi plein d'autres choses. Et nos réalisateurs, et vous êtes venus ce soir nous parler de la soirée d'avant-première qui aura lieu demain soir à l'Arvor à 20h15. Sera présenté en avant-première le film Les Reines du Drame de Alexis Langlois, une jeune réalisatrice, française. Et nos auditeurs et nos auditrices ne le voient pas, mais le festival s'appelle Regard avec un S entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il veut dire ce S ?
Ah, on s'est posé la question d'avoir plusieurs regards et comment on stipulait en fait d'avoir des regards différents et un seul regard sur une même communauté. Un regard qui nous rassemble, mais aussi des regards divers et variés de réalisatrices qui nous proposent des films extrêmement ouverts sur la culture queer et aussi sur, je dirais, notre vie de tous les jours. Et beaucoup des histoires d'amour, évidemment.
Et du coup, donc vous avez choisi ce film, Les Reines du Drame, pour l'avant-première. Pourquoi ?
Une histoire de calendrier au départ. Le film a été, c'est le premier long métrage de Alexis Langlois. Il a fait beaucoup de courts métrages comme De la terreur à mes sœurs, qui est très connu, Les démons de Dorothy. Et pour ce premier long métrage, en fait, la sortie nationale était avant le festival. Donc on a décidé de faire un pré-festival.
Et donc ce film, comme vous l'avez dit, c'est Alexis Langlois qui l'a réalisé, une jeune personne. Est-ce que c'est un des objectifs, une envie du festival de créer du lien entre les différentes générations queer ou même militantes ?
Oui, en effet. Enfin, je pense que d'ailleurs, ça se voit aussi dans l'équipe de programmation. On a vraiment essayé d'intégrer des personnes de différentes générations. Et ça, c'était important, en effet, de proposer des films, des propositions aussi artistiques, de soirées aussi qui permettent vraiment de relier différentes générations, différents publics. Et je trouve que, en tout cas, rien que dans l'équipe de bénévoles et dans l'équipe de programmation, bah, ça se ressent, ça, je trouve.
Et en parlant de soirée, il y a une soirée POC, donc POC pour People of Color. C'est une chose importante pour vous de créer des espaces de communauté où, même au sein de la communauté, il peut y avoir du racisme. Et donc pourquoi avoir fait cette soirée ?
C'est une soirée qui nous a été proposée par Ivory Wintour, qui commence à organiser sur Rennes en fait, des ballrooms. Et effectivement, à l'origine, les ballrooms étaient aussi une protestation ou une forme d'expression qui voulait que les personnes racisées étaient peu représentées en fait, parmi le milieu du drag. Et donc, les ballrooms ont été un peu inventés à cette époque-là, dans les années 70, en référence au voguing et à Vogue, puisque la ballroom, c'est un défilé avant tout de personnes. Et là, il se trouve qu'effectivement, sur une soirée le samedi soir, le 14, on aura à la fois un documentaire pour comprendre les ballrooms dans la journée et puis la soirée, en fait, pour en vivre une, effectivement.
Vous avez commencé à parler de la programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation un peu plus en général ?
Ce qui est assez intéressant dans cette programmation, c'est qu'il y a autant de fiction que de documentaires, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de voir ce qui se passe dans les documentaires, dans des propositions assez innovantes qui mêlent documentaires par exemple, et puis comédie musicale. Je pense au documentaire Il y a une étoile, qui est vraiment intéressant dans sa forme. Donc, des documentaires, des courts-métrages aussi. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment une intrication très fine entre ce qu'on propose et puis les soirées après qui sont proposées. C'est-à-dire que, par exemple, il y aura des performances drag, mais il y a aussi des films qui parlent de la scène, enfin, de drag queen et de ce que ça représente aussi comme engagement politique subversif. Et puis, pour la ballroom, tu en as parlé, Nadine, il y a toute une journée consacrée à ça, avec, du coup, après une soirée au Café des Champs Libres. Donc, c'est vraiment une programmation aussi qui mêle des films, un film culte, notamment Pride, que peut-être certaines parmi vous ont déjà vu, et puis vraiment des films qui n'ont jamais encore été vus, et c'est vraiment là l'occasion de leur donner des salles reconnues, des vrais lieux de projection pour être davantage mis en valeur.
Justement, est-ce que c'était une demande du public rennais? Enfin, il y a beaucoup d'artistes indépendants et indépendantes qui sont programmés, je pense notamment lors des expositions. C'était vraiment une envie de pouvoir donner un espace à des personnes qui sont des minorités.
Oui, c'était une envie de départ. À la fois, les lieux ont bien répondu et puis ils étaient en attente aussi. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on pourrait faire et ouvrez-nous les portes et puis construisons ensemble quelque chose. Donc ils nous accompagnent en nous offrant effectivement des salles, des projections et tout ce qu'il faut pour organiser un festival. Et puis la ville de Rennes aussi nous a beaucoup accompagnés, et Rennes Métropole, donc à la mission culturelle et à la mission égalité discrimination. Donc on a été assez bien suivi en fait par les institutions, mais on est resté très très indépendant par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc on a mis un peu de temps, on a mis presque 8 mois avant d'aboutir à la première version de ce festival, à la première édition. Mais ça nous a permis de regarder plus de 60 heures de films, des courts-métrages, des longs-métrages. Beaucoup de courts-métrages aussi prennent du temps. Parce qu'il faut les sélectionner, c'est pas toujours évident, on a des discussions et des débats, pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là, etc. Et on a une soirée court-métrage, en fait, qui devrait être intéressante le samedi soir. Donc, venez.
Et justement, pour le choix des films, il y a beaucoup d'associations qui sont alliées. Enfin, c'est à l'initiative d'Iskis à Rennes, qui est donc la maison des LGBTI, personnes LGBTI, en gros, à Rennes. Et ainsi que...
Il y a GLS Rennes.
Oui, et il y a aussi GLS Rennes, Contact 35 ou encore SES Homophobie. Qui a choisi les films? Est-ce que ça vient de toutes ces associations, des bénévoles qui en font partie ou même de la ville de Rennes?
Au départ, en fait, c'est une équipe de bénévoles avant tout. Donc des gens qui se sont rencontrés et puis qui avaient envie en fait, qu'un festival existe. Et puis on a demandé de l'aide un petit peu aux associations financièrement aussi, faut avouer, parce qu'un festival ça coûte aussi à mettre en place. Donc ces associations nous ont soutenus et nous soutiennent aussi en étant présents lors du festival. Ils vont présenter des films qui nous semblaient être en rapport avec leurs revendications ou leurs luttes.
Ouais, c'est vraiment, je pense, l'occasion de faire un contrepoint hivernal à ce qui se passe en juin pendant la Pride, et d'avoir un autre moment dans l'année où toutes les assos, toute la communauté queer, LGBT, QIA+, peut se retrouver et faire du sens. Enfin, je trouve que voilà, là, ça mêle vraiment des événements où plusieurs publics vont pouvoir se réunir. Enfin, c'était ça l'objectif.
Et justement. Est-ce que c'est pas un peu un moyen, enfin un peu une excuse pour aller rechercher des bénévoles, des militants ou même des militantes pour la cause LGBTI, étant donné que s'il y a le monde militant est quand même moins présent aujourd'hui, enfin pas moins présent, mais il peut parfois manquer de personnes.
Il y a toujours des bénévoles. Quand on a fait un appel aux bénévoles, on a eu 40 personnes qui se sont présentées. Donc les gens, en fait, ont envie que les choses existent et sont prêts à donner de leur temps, de leurs compétences. Donc je ne dirais pas qu'il y a un manque de bénévoles, mais peut-être un manque de visibilité de la communauté dans des lieux institutionnels. Donc on a l'impression d'être toujours un peu à la marge. Et le festival s'est donné 5 jours à la communauté pour voir des films, faire la fête, et puis aussi ouvrir à tous les publics. Donc c'est 5 jours de fierté, quoi.
Vous parliez d'institutions. J'ai pas trop l'impression, mais vous avez pas trop rencontré de difficultés, disons, un peu systémiques ou de freins à diffuser certains films ou même à avoir accès à certains lieux, même si vous avez l'air de dire qu'ils étaient plutôt, qu'ils en avaient envie plutôt.
Oui, ils nous ont fait confiance en fait. Ils nous font confiance sur la programmation. On a été totalement libres et on a partagé nos choix.
On a vraiment été bien accueillis par le cinéma Arvor, par le ciné TNB, aussi le FRAC, le Café des Champs Libres aussi. Enfin, c'est vraiment des partenaires qui nous accompagnent, qui nous font confiance. Après, non, dans les choix de films, c'est vraiment nous qui avons, enfin, c'est l'équipe de programmation qui a essayé de choisir des films aussi variés que possible, qui puissent toucher des publics variés. C'est vrai qu'il y a aussi des séances réservées au public scolaire, enfin, public collégien et public lycéen. Et donc, en veillant vraiment à ce que, dans la mesure du possible, toutes les communautés soient représentées et sans pour autant exclure les communautés les unes des autres. Et par exemple, moi, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de documentaires lesbiens, enfin, c'est comme ça que j'appelle ça, mais justement, moi, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, en fait, à m'ouvrir aussi à d'autres problématiques. Et je pense que ça peut vraiment intéresser aussi le public qui est juste gay-friendly. Et donc, c'est aussi pour ça que le terme queer est peut-être plus intéressant, parce que il est probablement moins excluant, il peut toucher davantage de personnes. Donc, d'ailleurs, ouais, enfin, ce qui est aussi intéressant, à travers notre programmation, on a veillé aussi à ça, c'est qu'il y a plein de pays qui soient représentés. Ça nous fait vraiment voyager aussi à travers le monde pour voir aussi comment ces questions-là, ces questions d'identité sont abordées à travers dans différentes parties du monde. Et ça, c'est aussi intéressant.
Oui, exactement. Il y a un film grec, il me semble, c'est ça ?
Il y a un film grec, il y a un film de Hong Kong.
Brésilien.
Il y a un film Brésil. Donc c'est vrai qu'on y voit du coup des communautés un peu différentes, mais qui nous touchent tout autant parce qu'il y a des ressemblances, évidemment.
Russe aussi, enfin voilà, il y a vraiment un documentaire qui se passe en Russie qui est vraiment très intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet vraiment de re-questionner le positionnement, enfin la dimension politique et subversive des performances drag. Et ça, par exemple, c'est aussi très très intéressant.
Et justement, il y a pas mal de soirées drag. Je sais pas s'il y en a une tous les soirs.
Non, il y a une soirée drag après le film Queendom dont on parle, hein, de la drag queen russe qui lutte contre Poutine à travers son art. Le lendemain, en fait, il y a les Vilaines Teuf, qui est plutôt un DJ avec un peu de drag, et puis une ballroom pour finir le samedi soir.
Et du coup, justement, est-ce que c'était pas un peu l'occasion de faire un pied de nez, bon, en même temps de créer un espace pour les personnes queer, enfin ouvert, sans discrimination, mais de faire un peu un pied de nez avec toutes les espèces de rumeurs de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a aussi un peu une visée, enfin, par rapport aux drag queens, par exemple, de lecture de drag queens, est-ce qu'il y a un peu une visée éducative au festival?
Éducative, je sais pas, enfin, même si en effet il y a des séances réservées au public scolaire, donc là il y a quand même une question d'éducation et de lutte contre les discriminations, donc ça c'est sûr qu'on y pense. Mais je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure, Nadine, c'était vraiment de se réunir pour faire la fête, et puis quand même dans une dimension politique, hein, ce qu'il y a derrière le terme queer. Donc pied de nez, je suis pas sûr qu'on l'ait conçu comme ça, mais plus comme un espace d'affirmation et de... d'occupation aussi de l'espace public. Enfin, à Rennes, il y a beaucoup d'événements déjà, mais c'est très riche. Même au cinéma, il y a pas mal de. On a quand même la chance à Rennes d'avoir des films qui proposent souvent des films avec des thématiques LGBTQIA+. Là, c'était l'occasion, vraiment d'avoir un moment festif. Après, il y a vraiment beaucoup de performances drag à Rennes de toute façon, et Alors, dans quelle mesure c'est politique systématiquement, je sais pas. Enfin,
oui, des fois, ouais. juste les personnes existent.
C'est le plaisir. C'est juste le plaisir d'être là, de s'amuser, d'avoir un espace sécurisant, un refuge qui accueille tout le monde. Et je crois que c'était ça aussi.
Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a vraiment les deux dimensions, à la fois éducative, partager la culture, partager des histoires, et puis une revendication aussi de visibilisation de la culture LGBT, donc qui, elle, est plus politique. Au moment où, en fait, la DILCRA, qui est la délégation interministérielle contre le racisme, antisémitisme et anti-LGBT-phobie, est rattachée au ministère de l'Intérieur. Ça nous a aussi questionné en se disant y a encore des choses à faire, les droits sont pas acquis et donc les associations se mobilisent partout en France aujourd'hui. Donc le festival, c'est une autre manière en fait de revendiquer son existence et d'affirmer en fait son existence et de veiller à ce que les droits ne soient pas mis à mal dans les années à venir.
Et du coup, là, ce que je ressens, c'est vraiment une envie d'unité un peu entre toutes les différentes personnes qu'il peut y avoir dans la communauté queer. Enfin, et queer, pour nos éditeurs et nos auditrices, qui veut dire en gros toutes les personnes qui sont, disons, différentes. Pas différentes, mais qui ne correspondent pas aux normes de genre ou de sexualité. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à cette définition.
Non, c'est bien.
Vous êtes d'accord? Et donc, derrière cette envie d'unité, est-ce que c'est pour ça, et même de légèreté, est-ce que c'est pour ça que le festival termine sur le film Pride, qui est plutôt une comédie, et qui retrace l'histoire d'une association gay, qui, pendant les années Thatcher, va récolter des fonds pour des mineurs en grève?
Ouais, bah ça fait partie aussi de notre volonté d'avoir un film culte. Et on s'est dit, celui-là, il nous paraît bien, il paraît opportun, d'une part en référence à la première édition du festival, en référence à la Pride qui aura lieu en juin, à Rennes. Et puis, ce film-là, c'est un qui s'est dégagé le plus facilement, en collaboration aussi avec Ed, qui nous a soumis ce choix-là, voilà, qu'on a validé, bien évidemment. Et donc voilà, ce sera le bouquet final.
Et justement, est-ce que vous avez un film ou une soirée que vous attendez tout particulièrement?
Moi, j'en ai déjà parlé, donc j'ai hâte que le public rennais puisse découvrir le documentaire Queendom, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça montre une autre image aussi de la Russie, ça montre des... Enfin, parce que ça, finalement, on n'y a peut-être pas tant accès que ça, mais à toutes les personnes dissidentes aussi en Russie qui se battent, qui luttent pour, enfin, contre ce qu'on peut appeler la propagande, en fait. Et voilà, ça, c'est vraiment un moment que j'ai hâte de partager avec le public rennais.
Et vous, David?
Moi, c'est l'ouverture, en fait, parce que j'espère qu'il y aura du monde. Et le film d'ouverture, il est intéressant, il est hongkongais, et c'est l'histoire de deux femmes dont une décède, et l'autre, en fait, du coup, se retrouve mise en danger, en fait, par la situation familiale, à la fois dans la situation familiale et politique et sociopolitique là-bas. Et en fait, je me suis dit qu'il touchait à tout le monde. C'est-à-dire, en fait, il touche aussi bien les hétéros, les homos. Il n'y a pas de différence. C'est cette histoire de couple, d'amour, qui est interrompue et puis qui n'a pas forgé les liens sociétaux, légaux, etc. Et qui se trouve bouleversée, du coup. Donc, cette femme-là, en fait, m'a touchée beaucoup.
Eh ben, merci pour ces recommandations. En tout cas, sachez que demain soir, donc à l'Arvor, à 20h15, aura lieu l'avant-première du film Les Reines du Drame de la réalisatrice Alexis Langlois et qui sera suivie d'une soirée, c'est ça? C'est bien ça?
Ouais.
22h au Café des Champs Libres, une soirée drag, je sais plus, non?
Non, DJ.
DJ, pardon. Ah oui, avec Bogota Beats, c'est ça? Et voilà, rendez-vous le 11 décembre, c'est ça?
Du oui. 11 au 15.
Du 11 au 15 décembre pour le festival en entier. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu.
Super. Merci.
Merci à vous. Merci pour cette interview, Cyriane.
6 heures avant minuit.
Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle chronique, la chronique assorénaise. Maëlle la présentera une fois par mois. Son objectif, c'est de vous faire découvrir les associations dans la métropole rennaise et ses alentours, qu'elles soient sportives, culturelles, caritatives ou encore de loisirs. Il y en a vraiment pour tous les goûts hein, dans le coin, sur notre territoire. Aujourd'hui, on commence par l'UNICEF, une association défenseuse des droits de l'enfant à l'international, Maëlle.
Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Pour commencer, saviez-vous qu'il existe 1,5 million d'associations en France, qu'elles soient culturelles, caritatives, sportives ou encore de loisirs? Plus précisément, il existe 7000 associations à Rennes, ce qui fait une association pour 32 habitants. Quelle chance! Vous en trouverez sûrement une à votre goût. Mon but lors de cette chronique, c'est de vous faire découvrir les associations près de chez vous. Aujourd'hui, c'est le moment de présenter l'UNICEF, la célèbre association défenseuse des droits de l'enfant à l'international. L'UNICEF, c'est quoi? United Nations International Children's Emergency Fund, avec mon superbe accent anglais, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies créée en 1946. Elle a eu comme première mission de protéger les enfants européens qui souffraient de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, la mission est devenue plus large et elle a commencé à inclure l'aide aux enfants et aux mères dans les pays en développement. Aujourd'hui, et depuis presque 80 ans, l'UNICEF travaille sans relâche dans plus de 190 pays et territoires pour protéger et faire valoir les droits des enfants, en particulier les plus vulnérables. Elle met l'accent sur des questions telles que l'amélioration des établissements de santé, la malnutrition, l'éducation et le bien-être général des enfants dans les pays en développement. On identifie cette association à la couleur bleue et blanche, mais pourquoi ? L'utilisation de la couleur bleue dans le logo l'UNICEF est synonyme de l'accessibilité, la prospérité et de la grâce de l'organisation, tandis que la couleur blanche représente la noblesse, la paix et la pureté. Maintenant que je vous ai parlé de son importance internationale, laissez-moi vous éclairer sur son action locale. En effet, contrairement aux idées reçues, l'UNICEF n'a pas uniquement vocation à aider les jeunes à l'étranger. En France, on pourrait ne pas se sentir concerné par ce désastre qui touche les enfants et leurs droits. Mais pourtant, chaque nuit, en France, plus de 2000 enfants dorment à la rue. Parmi eux, des enfants de moins de 3 ans, des nourrissons tout juste sortis de la maternité, qui passent leurs premiers jours de vie dans la rue. L'action locale est donc superbe importante. L'UNICEF est présente dans plus de 75 départements français, et notamment en Ille-et-Vilaine. Elle a une antenne locale à Rennes, et une toute nouvelle à Dinard. Leur mission, essentiellement des actions de sensibilisation, de visibilité, en faveur de la cause solidaire et des récoltes de fonds. En voici quelques exemples. L'UNICEF sera présente au Festisol, Festival des Solidarités de Rennes, et dans des écoles primaires et maternelles rennaises en novembre, afin de sensibiliser les enfants à leurs droits, à l'occasion de la Journée internationale des enfants, du droit des enfants, le 20 novembre. En ce qui concerne la collecte de fonds, l'UNICEF sera présente dans certaines librairies rennaises, peut-être une centaine bientôt, pour effectuer des missions papier cadeau durant le mois de décembre. Pour ce qui est des missions de visibilité, il y a eu cette année le prix UNICEF de littérature jeunesse mené avec la complicité des équipes de la librairie Le Feilleur à Rennes et dans l'espace Ouest-France. N'oubliez surtout pas le rendez-vous du Grand Bain à Dinard le 31 décembre pour finir l'année en couleur de l'UNICEF. Alors, convaincu ? C'est avec les bras ouverts que l'UNICEF ouvrira ses portes à de nouveaux bénévoles.
Merci Maëlle et John Lennon. Peace and love. On se retrouve dans un mois du coup pour que tu nous présentes une nouvelle association.
Avec plaisir.
À bientôt.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Fallait qu'on vous dise, vous avez un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous dont vous avez envie de partager les détails, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages ou nos chroniques. Laissez-nous un message vocal. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. C'est tout pour nous ce soir. Merci Eva pour la technique. À demain.
Sauvage.
Et le reptile.
Et si.
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllabe, la radio sauvage.